Le Congrès mondial de la nature se tient à Marseille dans le parc Chanot du 3 au 11 septembre 2021. Organisé par l'ONG Union internationale pour la conservation de la nature, cet événement rassemble des milliers de chercheurs, de représentants de gouvernements, d'entreprises, d'organisations de la société civile. Le congrès se divise en trois composantes. L'Assemblée des membres, organe décisionnel de l'UICN, où des questions liées à la conservation et au développement durable sont discutées. Le forum, un pôle de conférences alliant beaucoup de thématiques, du changement climatique aux droits de l'homme. Et une troisième composante, la zone d'exposition. Seule la zone d'exposition, appelée Espace Génération Nature, est accessible au grand public car gratuite. Plus de 250 associations, collectifs citoyens, collectivités, entreprises, artistes et établissements publics y sont réunis pour présenter leurs projets et solutions en faveur du vivant. Allons à la rencontre de certains et certaines.
L'ALPO agit en fait pour les oiseaux, les mammifères, les reptiles, voilà, les amphibiens et les insectes. Et en fait, donc, on va avoir une action sur l'aquatique, mais par rapport aux insectes qui ont, on va dire, un rôle sur ce milieu-là.
Et en quoi ça vous a semblé important de venir ici pour ce congrès à Marseille ?
Donc pour nous, il y a une direction à prendre. On est au quotidien en fait face à une tendance qui décline. On a beaucoup d'espèces communes qui sont de moins en moins présentes, de moins en moins abondantes. Et en fait, le programme Refuge s'intéresse à ces espèces qu'on dit communes et qui le sont de moins en moins. Et donc on veut attirer l'attention sur ces espèces-là qui ont besoin de nous parce qu'il n'y a pas de statut réglementaire, voilà, il n'y a pas de protection. Et donc on a l'espoir de développer un gros réseau de refuges pour cette biodiversité.
Installation électroacoustique. Birds of Silence propose l'écoute du chant de ces oiseaux aujourd'hui en voie d'extinction. Des caissons de pêche, des herbes folles.
Le groupe Dune, Bernard et Madeleine, sont tombés amoureux des petites bêtes qu'on trouve dans le sol, qu'on appelle des colamboles. Il y en a des milliers et des milliers dans un mètre carré de sol. Et ça nous a donné l'idée de faire une installation où justement on essaye un petit peu de montrer ce qu'on appelle le sol vivant, c'est-à-dire de montrer que cette interface entre la roche et l'atmosphère et la végétation, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, notamment évidemment dans les milieux agricoles, mais dans les milieux forestiers, etc. Et que c'est un milieu plein de vie qui a mis des centaines d'années à se former, qui pourrait mettre beaucoup plus rapidement à se détruire si on n'y fait pas attention. L'idée, c'est un petit peu de sensibiliser, mais d'une façon un peu artistique, pas du tout pédagogique, à cet univers particulier qu'est le sol, sa biodiversité, le rôle que joue cette biodiversité dans le fonctionnement global de l'écosystème.
Comment ça s'appelle, la science des sols ?
Alors,
c'est un terme ?
La pédologie. Ça s'appelle la pédologie.
Dans le sol, on trouve tous de quoi s'émerveiller tout le temps, parce que c'est un monde immense, c'est un espace vraiment immense. Vous savez, ça prend du temps de plonger comme ça dans l'univers microscopique, et on se sent aussi petit en regardant ça que quand on regarde les étoiles dans le ciel.
Alors, parlez-moi de l'OPI, qu'est-ce que c'est ?
Au départ, c'était l'Office pour l'information et qu'entomologique, et c'est devenu l'Office pour les insectes et leur environnement. Notre vocation, depuis 50 ans, c'est d'utiliser le modèle insecte pour présenter les problèmes de la nature et la nécessité de protéger l'environnement. Et ici, aujourd'hui, au Congrès mondial de l'UICN à Marseille, nous utilisons comme levier, finalement, pour parler de cette protection nécessaire de l'environnement, eh bien les papillons. Et on a conçu ici une serre à papillons de 60 mètres carrés qui est traversable par le public, par petits groupes, et qui sont accompagnés par nos médiateurs qui leur expliquent quelles sont les menaces qui pèsent sur les papillons, les remèdes qu'on peut trouver, et qui expliquent aussi qu'il existe des plans nationaux d'action en faveur des insectes, que ce soit les pollinisateurs, les papillons ou d'autres animaux, qui sont très importants pour nous permettre de préserver notre environnement.
C'est des papillons de la région ?
Alors, ce que nous présentons, ce ne sont pas des papillons de la région, pour plusieurs raisons. Et la première, la plus importante, est que ces papillons que nous présentons sont tous issus d'élevage. Et la deuxième, c'est que c'est beaucoup plus difficile à élever pour présenter en masse que des papillons tropicaux. Les papillons tropicaux que nous présentons sont élevés dans leur pays d'origine, exportés sous forme de chrysalide. Ils éclosent ici en France dans nos serres d'éclosion et de reproduction. Et ils ont été recapturés donc il y a 2 jours, chacun conditionné individuellement pour nous être acheminés dans un colis par transporteur sur site. Voilà, donc nous avons lâché à peu près 350 papillons qui appartiennent à 35 espèces différentes, si je me souviens bien, et qui sont de 6 ou 7 provenances différentes à travers le monde.
C'est un stand qui est partagé par 3 structures, donc le Parc National des Calanques, la Ville de Marseille et Septentrion Environnement. La thématique générale, ça va être la réalité virtuelle dans les fonds sous-marins marseillais. Et chaque structure propose une expérience de réalité virtuelle avec une petite spécificité chacune. Donc le parc national des Calanques va être centré sur les canyons sous-marins, donc le canyon de Cassidaigne qu'on retrouve un petit peu au large de Marseille. Et puis la ville de Marseille va être sur la thématique des récifs artificiels du Prado. Donc ce sont les récifs qui ont été immergés en 2008 sur la baie du Prado. Ce sont des récifs qui ont un intérêt de restauration écologique, donc pour faire entre guillemets revenir la vie sur les récifs qui ont été immergés et qui aujourd'hui sont producteurs de biomasse et de vie sous-marine. Et ensuite vous avez Septentrion Environnement qui, eux, font découvrir les fonds sous-marins naturels à travers trois habitats emblématiques de Marseille, donc les grottes sous-marines, les grottes à corail, les tombants coralligènes et les petits fonds rocheux qu'on peut retrouver dès la surface.
Bienvenue au stand Sea Sound Bubble à l'écoute de la mer.
Sur un stand de Suez Céram.
À Marseille, où la Céram, donc la filiale de Suez, gère depuis plusieurs dizaines d'années, une trentaine d'années, l'ensemble de la collecte des eaux usées, le traitement dans la station d'épuration de Marseille qui s'appelle Géolide, jusqu'au donc rejet dans la Calanque de Cortiou.
Et vous êtes là ici au Congrès mondial de la nature pour montrer une animation autour du son, autour de ce qu'on peut écouter dans les fonds marins.
Oui, alors ce projet-là est parti du fait que nous, donc traiteurs de déchets, de pollution, et donc on essaye de réduire bien sûr l'impact de nos rejets vis-à-vis du monde marin par exemple, on doit aussi mesurer l'efficacité de ces actions-là et des actions de la collectivité en général pour protéger ce littoral. Et donc on a trouvé une solution pour détecter, mesurer la vie, qui est l'acoustique, entre guillemets c'est la bioacoustique, qui permet effectivement d'écouter, puis de traiter le signal sonore afin de reconnaître des sons, donc à la fois des sons, des signatures de poissons, hein, comme le corbe, le mérou, mais aussi les bateaux, par exemple les sons aussi de la terre, hein, s'il y a un tremblement, s'il y a de la météo, on entend tout ça au fond de la mer, et on entend surtout toute la biodiversité, puisque quand il y a de la vie, il y a du son. Donc si c'est le cas, eh bien comme ça, on peut mesurer si effectivement on n'a pas d'atteinte et si le milieu naturel, le milieu marin va bien.
Du plancton en réalité augmentée ?
Exactement. En fait, on a créé une application qui s'appelle Street Science et que tu peux télécharger, qui est gratuite et en fait qui te permet de faire des balades dans le centre-ville de Marseille pour trouver, un peu comme un jeu de piste, pour trouver des panneaux qui sont cachés dans la ville, il y en a 14. Et quand tu les scannes, tu vois du plancton en réalité augmentée et tu apprends plein de choses sur le plancton. Et on vient de lancer à l'occasion du Congrès mondial de la nature une grande fresque en street art qui est dans le panier à Marseille et qui elle aussi est animée en réalité augmentée. Et pour la première fois, elle est animée en fonction de la météo. Donc il y a du plancton qui s'affiche dessus et dont le nombre et le mode de déplacement changent en fonction de la météo du jour. Et donc du coup, avec l'appli, tu peux soit faire le petit jeu de piste, soit aller visiter la fresque en réalité augmentée, soit venir ici. C'est une initiative de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui nous a soutenus sur ce projet. Et c'est à l'initiative d'une chercheuse qui est spécialiste du plancton et qui était fan de Pokémon Go et qui avait envie de trouver des Pokémon, des petits planctons cachés un petit peu partout. Donc on a créé ça un peu sous la forme d'un safari plancton dans le centre-ville.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire des planctons à Marseille ?
Alors en fait, des planctons, il y en a partout dans tous les océans. C'est très connu parce que c'est la base de la chaîne alimentaire. Souvent, on me dit oui, le krill qui est mangé par les baleines. Et en fait, ça regroupe à la fois du plancton animal, donc le krill par exemple, des petites crevettes, et du plancton végétal, des micro-algues en fait, qui peuvent donner par exemple des couleurs à la mer. En fait, il y en a partout et puis ça a un rôle très important. Typiquement, le plancton végétal, il fournit presque près de 50% de l'oxygène qu'on respire à la même hauteur que les forêts.